Bonjour à tous et permettez-moi, avec la rédaction de France Inter et les équipes qui vont aider à préparer ce journal, de vous présenter tous nos vœux de bonheur et d'espoir pour la nouvelle année. Dans l'actualité de ce 1er janvier 2022, la France prend la présidence tournante de l'Union européenne avec un programme annoncé comme ambitieux. La France a 6 mois pour faire avancer les dossiers jugés prioritaires. Invité de ce journal, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes. Les vœux télévisés d'Emmanuel Macron. Hier soir, le président a espéré que 2022 marquera peut-être la fin de l'épidémie de coronavirus. Des vœux également politiques, jugés très sévèrement par ses opposants. Dans ce journal également, une nuit de la Saint-Sylvestre agitée à Strasbourg. Et le départ aujourd'hui du Dakar, le rallye prend le tournant de l'électrique. La météo, la douceur se maintient pour ce week-end du Nouvel An. Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal. À 13h20, secret d'info au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, on va tout vous dire sur Viginum, la nouvelle agence créée pour lutter contre les campagnes de désinformation. Et vous verrez que ces fausses infos, non seulement elles sont de plus en plus nombreuses, mais surtout elles ont de plus en plus d'impact.
Jacques Monin, après ce journal.
France Inter.
La présidence française de l'Union européenne est donc partie. La France prend pour 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et pour symboliser cette présidence, un drapeau européen est déployé sur l'Arc de Triomphe. Hier soir, la Tour Eiffel s'est également illuminée en bleu. Et ce drapeau de l'Europe au-dessus de la tombe du soldat inconnu fait réagir tous les candidats de droite à l'élection présidentielle. Une provocation pour Marine Le Pen, un outrage pour Éric Zemmour. Valérie Pécresse demande de son côté à Emmanuel Macron de rétablir le drapeau français sous l'Arc de Triomphe. Et malgré cette discorde en campagne électorale, la France préside donc l'Europe avec un programme ambitieux pour une Europe puissante et souveraine. La présidence française va donc permettre à Emmanuel Macron de faire avancer les textes qu'il juge prioritaires. Le détail avec notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bois.
Parmi les textes déjà sur les rails, il y a les directives pour réguler les plateformes numériques. Celles qui visent à limiter la concurrence déloyale des GAFAM pourraient bien être adoptées. Emmanuel Macron est également attaché à une Europe plus sociale. Le cadre européen qui permettra d'instaurer des salaires minimums dans les États membres fait à peu près l'unanimité. La négociation devrait bien avancer. La France peut aussi espérer un accord à 27 sur l'ajustement carbone aux frontières, ce dispositif qui permettra de taxer les importations de produits qui ne sont pas fabriqués selon nos normes. Enfin, le président français veut faire avancer la réforme de l'espace Schengen, mais le dossier est explosif, tout comme celui d'une défense commune. Il veut aussi lancer une réflexion sur la réforme des règles communes d'endettement. Un agenda très chargé, soumis aux imprévus et qui pourrait dérailler en cas de crise avec la Pologne ou la Hongrie, deux pays qui n'ont pas réglé leur sortie de route en termes d'état de droit et qui pourraient bien marchander leur soutien sur certains dossiers. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Invité de ce journal, Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Et vous avez publié « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. Bonjour Patrick Martin-Genier.
Bonjour.
Alors on va d'abord peut-être rappeler pourquoi la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne aujourd'hui, à 100 jours de l'élection présidentielle en France. Un timing qui fait polémique durant cette campagne et qui est dénoncé comme une concurrence déloyale par les opposants au président français. Mais la France et Emmanuel Macron ne sont pas maîtres du calendrier européen, Patrick Martin-Genier.
Non, bien sûr que non. Vous l'avez dit, cette présidence de l'Union européenne revient tous les 13 ans. On aura eu tort, la France, Emmanuel Macron, de se passer de cette présidence, d'autant qu'il est lui-même très européen. L'ADN du président de la République, c'est l'Europe, la construction européenne. Donc c'est important. Par ailleurs, nous n'aurions pas dû exercer cette présidence au 1er janvier 2022 si le Royaume-Uni n'avait pas quitté l'Union européenne. Et donc le calendrier a été bouleversé et donc c'est un hasard du calendrier que, effectivement, la France préside aujourd'hui cette Union européenne, et donc le président de la République n'y est pour rien, mais en effet, il est européen, europhile, et donc il était tout à fait normal qu'il exerce cette présidence pour faire avancer les textes qui lui tiennent à cœur.
Alors justement, quels sont les grands chantiers, les enjeux pour la France pendant les 6 mois qui viennent ?
Alors, il y a différentes priorités, notamment c'est cette notion d'Europe souveraine. Le président de la République a dit qu'il souhaitait que l'Europe soit plus forte, plus puissante. Et d'ailleurs, ça fait tout à fait écho aux propos tenus par le chancelier allemand hier soir lors de ses vœux, qui a lui-même parlé d'une Europe forte et souveraine. Il s'agit d'abord de protéger les frontières de l'Union européenne. La thématique migratoire est quand même très importante. Et vous aurez remarqué que le président de la République a rendu visite à Viktor Orban, le premier ministre hongrois, en fin d'année dernière. Et il y a également l'Europe de la défense. défense, il faut absolument, alors que les tensions internationales se multiplient, notamment entre les États-Unis, la Chine et la Russie, à propos de l'Ukraine, que l'Europe puisse se renforcer en termes de stratégie de défense. Donc ce sont effectivement, c'est un élément très important. L'autre aspect, c'est l'immigration, vous l'avez dit, la frontière extérieure, il faut que l'Europe se protège des guerres hybrides, on l'a bien vu avec la guerre hybride initiée par le Bélarus contre la Pologne, c'est une problématique très importante, notamment sur le plan européen, mais également sur le plan national. Et enfin, vous l'avez évoqué, les taxes contre les groupes du numérique, il n'est pas normal que des grands groupes du numérique puissent faire d'énormes profits en Europe sans contribuer en termes de fiscalité, ce qui correspond quand même à une solidarité au sein de l'Union européenne. Donc l'agenda est très important et il appartient à la France de soutenir et d'accélérer en effet les textes qui seront votés au niveau du Conseil des ministres.
Alors Patrick Martin-Genier, il y a aussi l'aspect social, une Europe plus sociale et notamment la proposition de SMIC européen pour aller vite.
Oui, alors cette notion de SMIC, en réalité, le président de la République a estimé qu'il s'agit d'un salaire décent. En effet, il y a une sorte de compétition entre les différents États sur le salaire. Et donc, il faudrait effectivement qu'il y ait une vraie harmonisation en termes de salaire et notamment de fiscalité. Il n'est pas normal que des salariés soient moins payés dans un pays que dans un autre pays de l'Union européenne. On est loin d'avoir harmonisé ce salaire et les conditions de travail. Je crois que c'est un élément important qui avait d'ailleurs initié la présidence portugaise de l'Union européenne qui avait donc fait un sommet social. La France souhaite faire avancer effectivement cette notion de salaire minimum de façon à ce qu'il y ait une meilleure équité entre les salariés de l'Union européenne.
Alors Patrick Martin-Genier, autre ambition, c'est repenser le traité de Maastricht, c'est-à-dire réviser les règles budgétaires.
Tout à fait. C'est une des priorités d'Emmanuel Macron, mais qui manifestement, cela prendra plus de 6 mois. Il souhaite faire réformer les règles du traité de Maastricht, qui, comme vous savez, limite à 3% du PIB le déficit du budget des États membres et à 60% l'endettement. Le président de la République estime que ces règles sont largement dépassées, et d'ailleurs, il a le soutien d'un certain nombre d'autres pays de l'Union européenne. Il a le soutien de l'Italie, puisqu'il a rendu visite au président du Conseil italien Mario Draghi, qui est un ancien président de la Banque Centrale Européenne. Il veut faire évoluer les règles de façon à ce que sur le plan budgétaire, on puisse relancer la croissance par des investissements publics. Donc ça, c'est important, effectivement, c'est un grand débat. Il souhaite réformer les règles de Maastricht. Le problème est de savoir, est-ce que d'autres pays comme en Europe du Nord ou voire en Allemagne, ces pays seront importants. Le rôle de l'Allemagne sera fondamental car, comme vous savez, il y a un ministre libéral des Finances qui est, lui, partisan d'une orthodoxie budgétaire très stricte.
Merci. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des questions européennes. Merci à vous. Dans ses vœux télévisés hier soir, Emmanuel Macron a donc fait de l'Europe un rendez-vous majeur, des vœux également fortement politiques. Le chef de l'État s'est montré optimiste et combatif. Il a voulu défendre un bilan positif de son mandat. Il a rappelé plusieurs de ses réformes pour les jeunes, les retraités, sur le pouvoir d'achat et bien sûr sur la baisse du chômage. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour.
Et à 100 jours du premier tour de la présidentielle, les opposants à Emmanuel Macron jugent très sévèrement les vœux d'hier soir.
Arrogance, suffisance et surtout déconnexion. L'opposition tire à boulet rouge. Agnès Evren, porte-parole LR de Valérie Pécresse, juge qu'Emmanuel Macron ne vit pas dans le même pays que les Français.
On avait l'impression qu'il dépeignait un peu un village à la Potemkin, en fait, où tout allait bien, il n'y avait pas de problème de chômage, d'insécurité, de pouvoir d'achat.
Pour Yann Brossat, le directeur de campagne du communiste Fabien Roussel, le président, presque candidat, fait de ses vœux une tribune politique.
J'ai surtout eu le sentiment d'assister à une longue page de pub avec un président de la République qui a passé 10 minutes demandant aux Français de mesurer l'immense chance qu'ils ont d'avoir Emmanuel Macron pour président de la République et les suppliant de lui donner 5 années supplémentaires.
La majorité, elle, fait bloc derrière le chef de l'État. Ses critiques, c'est le ronron habituel de l'opposition, balaye Christophe Castaner, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale.
c'est bien d'écouter le président avant de commenter et de ne pas le faire de façon monotone. J'ai entendu un président qui n'a pas fait le bilan de 5 années d'action, mais qui a parlé de l'année 2021 comme une année d'action et d'avancée, notamment sur la gestion de l'épidémie.
Et l'ancien ministre de l'Intérieur salue aussi le message d'espoir qu'adresse selon lui Emmanuel Macron aux Français. Ilia Bergel, merci. Et puis concernant l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a affiché son optimisme dans ses vœux. 2022 sera peut-être, a-t-il dit, la fin de l'épidémie. Et il a appelé les 5 millions de Français non vaccinés à faire ce geste simple, la vaccination. La France compte sur vous, a ajouté le chef de l'État. Les chiffres des contaminations continuent de progresser de façon vertigineuse. 232 000 nouveaux cas hier et les soignants sont sous pression. Par exemple, à l'hôpital de Colmar, dans le Haut-Rhin, dans le service de réanimation, le vœu des soignants pour 2022, c'est que les Français se fassent tous vacciner. Elisabeth Gartner, chef du pôle réanimation des hôpitaux civils de Colmar, avec Faustine Calmel.
Les réas sont pleines, à la fois de patients Covid et non Covid, avec les Covid qui prennent une majorité des places. Il faut que les gens se vaccinent. J'aimerais ne plus voir arriver de formes graves de personnes non vaccinées, c'est mon secret espoir. Que les gens se protègent, qu'ils ne fassent pas la fête, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour les soignants, on annule des fêtes, de famille, c'est pas cool, mais... Il faut le faire, mais surtout, il ne faut plus qu'il y ait les antivax. Il faut qu'ils arrêtent leurs discours qui sont délétères. Et j'aimerais que tout le monde soit vacciné.
Et puis à partir d'après-demain, lundi 3 janvier, le port du masque devient obligatoire à partir de 6 ans dans de nombreux lieux publics. Cela concerne les transports, les établissements accueillant du public, les stades, les lieux de culte et l'extérieur, lorsque le port du masque est demandé par le préfet. Les célébrations du Nouvel An se sont déroulées hier soir sur les Champs-Élysées avec un accessoire indispensable, le masque. Des milliers de personnes se sont retrouvées près de l'Arc de Triomphe dans le calme pour célébrer le passage vers 2022 dans Lyon. Une rêve partie est en cours, elle rassemble 1500 fêtards. La fête doit prendre fin, demande le préfet de Lyon. Et puis à Strasbourg et à Mulhouse, la nuit de la Saint-Sylvestre a été agitée. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
115 véhicules incendiés, 47 interpellations en Alsace.
Oui, 115 véhicules au total ont pris feu, dont une trentaine par propagation des dégradations et des affrontements avec les forces de l'ordre, bien moins violents malgré tout qu'il y a quelques années avant la crise Covid. Comme dans les Yvelines par exemple en Ile-de-France, 36 véhicules incendiés tout de même et une bagarre sérieuse à Sartrouville entre 15 adolescents et jeunes adultes et des agents de la compagnie départementale d'intervention. 6 personnes ont été interpellées. Mais là où ça aurait pu être bien plus grave, c'est à Nice hier soir en début de soirée, quartier de l'Ariane. Des individus détruisent d'abord une caméra de surveillance, tirent de mortier d'artifice, mais une heure plus tard, incendie, a priori criminel, dans un local. Le feu s'étend à l'immeuble voisin. 200 personnes ont dû être évacuées en urgence. 3 policiers ont sorti in extremis une dame qui était coincée.
Et puis Emmanuel, il y a cette rave party dans Lyon où un important dispositif de gendarmerie est en place en ce moment.
Oui, cette fois les gendarmes ne sont pas rentrés de force au cœur de la rave party comme à Lyon en Bretagne il y a un an, tout juste. Et ils sont déployés tout autour du site. Contrôle d'alcoolémie et prise de stupéfiants à la sortie. Ils évitent également l'arrivée de nouveaux adeptes des rave parties.
Emmanuel Leclerc, merci. À l'étranger, au Cap, en Afrique du Sud, la messe de Requiem pour Desmond Tutu a permis ce matin à ses proches et à tous les Sud-Africains endeuillés de dire un dernier adieu à leur archevêque. Une cérémonie dans la cathédrale anglicane du Cap que Mgr Tutu, mort le 26 décembre dernier, à l'âge de 90 ans, a voulu simple et épuré. Sur place, Claire Bargelès.
Oui, après 2 heures de messe, de sermons et de chants religieux au sein de la cathédrale Saint-Georges, le cercueil de Desmond Tutu a finalement été escorté à l'extérieur par les invités présents et il a désormais pris la route vers son lieu de crémation. Pour être plus précise, le corps de l'archevêque sera aquamé selon le clergé, soit une procédure de dissolution du corps par l'eau jugée moins polluante, ce qui rejoint l'un des nombreux combats de Desmond Tutu qui se battait aussi pour la sauvegarde de l'environnement. L'urne contenant ses cendres sera conservée près de l'autel de cette cathédrale qu'il aimait tant, situé dans le centre-ville du Cap, un lieu accessible pour que les Sud-Africains et les visiteurs du monde entier puissent à l'avenir venir s'y recueillir. Sans fanfare ni cérémonie fastueuse, l'homme à la robe pourpre s'en est donc allé. Il laissera derrière lui un héritage formidable, selon le président Cyril Ramaphosa, qui a pris la parole à la fin de la cérémonie. Et il restera un guide moral, a-t-il ajouté, dans un pays diminué suite à son départ. Au Cap, Claire Bargelès, RFI pour France Inter.
Dans le monde, et en France, le 1er janvier, c'est aussi le moment de dresser la liste de ces résolutions. Parmi elles, peut-être, allez-vous vous lancer le défi de réduire votre consommation d'alcool? C'est en tout cas le moment, avec le Dry January, le défi de janvier, du mois sans alcool, 31 jours pour constater les bienfaits d'une diète d'alcool sur la peau, perte de poids également et sommeil plus profond. Sur le site de campagne du défi de janvier, 11% des Français assurent vouloir relever le challenge, mais ce défi s'annonce compliqué cette année, les restrictions pèsent sur le moral. Marion Ferrer.
Fred, 40 ans, habitué à des apéros entre amis, s'est lancé le défi pour la troisième année consécutive. Il espère faire mieux qu'en 2021 et ne pas craquer.
Beaucoup de télétravail, etc. Donc il y avait le stress du boulot, le stress de ne pas pouvoir sortir dans les bars, restos, etc. Donc le petit verre de vin le soir, c'était quand même assez réconfortant. Même si en général, il n'y en avait qu'un, j'ai tenu 15 jours. Et puis là, j'ai envie de le faire correctement.
Alors cette année, pour se motiver, il a créé un groupe WhatsApp avec des amis qui participent aussi. Clémentine, 37 ans, redoute également le retour du télétravail.
C'est quand même aujourd'hui enlever quelque chose qui peut être de l'ordre du plaisir. Donc c'est pas forcément évident. À un moment, on nous enlève beaucoup de choses liées au plaisir et à la convivialité.
Aucune goutte de vin, ni de bière, ni même de panaché. Thomas, lui, vise le sans faute. Ce trentenaire regrette tout de même la pression sociale autour de l'alcool.
On remplace par quoi? On remplace par n'importe quoi et par une bonne dose d'assurance pour assumer un peu face aux gens autour. Ne pas boire d'alcool pendant un mois, ça ne doit pas être un souci. Pourquoi c'est un souci? Pourquoi est-ce qu'on en fait remarque?
Et pour vous convaincre, un mois sans alcool, ça permet de mieux dormir, de perdre un peu de poids, mais aussi de remplumer votre porte-monnaie.
D'autres témoignages à retrouver sur franceinter.fr. Cap ou pas cap, ces Français qui participent à Dry January. Le Dakar s'élance aujourd'hui pour sa 44e édition, un rallye en Arabie Saoudite dont le départ est donné de Jeddah sur la mer Rouge pour une arrivée le 14 janvier après une boucle de 2 semaines. Le Dakar 2022 préfigure ce que seront les rallyes dans quelques années et il est marqué cette année par l'arrivée d'une nouvelle catégorie de courses réservée aux voitures et aux camions hybrides ou 100% électrique. Le Dakar prend donc le tournant de l'électrique, Fanny Lechevestrier.
C'est le puissant constructeur allemand Audi qui a franchi le pas en alignant 3 solides véhicules hybrides au départ de la course. Une grande première qui a poussé le champion Stefan Peter Hansel, 14 victoires à son actif, à rempiler pour un 34e Dakar.
Le projet est tellement intéressant que dès aujourd'hui, je peux dire qu'on n'est pas déçus. On travaille avec des gens qui ont des compétences énormes, qui nous montrent des nouvelles technologies, qui nous apprennent plein de choses. Que pour ça, moi, je suis content de faire partie de ce projet.
Et s'il n'est pas question de victoire cette année, Peter Hansel espère bien rallier la ligne d'arrivée avec un véhicule équipé de 3 moteurs, 2 électriques et 1 thermique pour recharger les batteries en course. Au final, le buggy doit consommer 2 fois moins d'essence qu'une voiture normale. Un vrai test dans l'histoire du rallye, critiqué pour son impact négatif sur l'environnement. Pour le directeur de la course, David Castera, c'est même un virage majeur.
Faut pas que ça soit juste ils ont mis des véhicules électriques, c'est super. Non, Dakar devient un laboratoire à ciel ouvert. On veut qu'on garde l'ADN du rallye, mais adapté aux véhicules de demain. Donc ça sera des véhicules qui pourront plus tard servir à monsieur tout le monde.
Avec un prochain objectif fixé vers un Dakar vert, qu'en 2026, tous les équipages professionnels roulent donc des véhicules zéro émission, sans gaz d'échappement.
Fanny Lechevestrier, on termine avec le coup de cœur du service culture de France Inter pour ce week-end du Nouvel An. Avec un endroit hors du temps, en plein Paris, le musée des Arts Forains. Il est ouvert aux visites jusqu'à demain soir dans le cadre du Festival du Merveilleux. Et on y trouve la plus grande collection privée consacrée au spectacle de l'Art Forain de 1850 à 1930. Et cette 11e édition du Festival du Merveilleux, Amélie Perrier, est consacrée aux années folles.
Le musée des Arts Forains est installé dans les pavillons de Bercy. Les anciens chais des marchands de vin de Paris, une plongée dans le temps, 140 ans en arrière. Et à l'intérieur, vous grimperez sur le vélocipède, un manège de 1897 qui tourne quand on pédale suffisamment vite. Vous jouerez à ce qui ressemble aux ancêtres des flippers. Et au milieu de cette fête foraine, des spectacles toutes les demi-heures, dont celui de Laurette de Paname. Robe à franges et boa en plume, elle reprend Mistinguette et Joséphine Baker et convie même les spectateurs à un cours de charleston.
Allez, on y va. 7, 8 et marche. Pointe.
C'est facile le charleston ?
Oui, c'est très accessible à tous. Les pas sont très simples. J'ai bien décortiqué les pas et je me suis rendu compte que vraiment tout le public adhérait. C'est vraiment irrésistible.
Les parents, les enfants, les jeunes en groupe, tous se prêtent à cette danse endiablée comme le voulait le créateur de l'endroit, Jean-Paul Favant.
Je ne cherche pas le rire, je cherche le sourire.
parce que le rire, il explose, il disparaît très vite. Le sourire, on le garde en partant, et on le garde dans les années, j'espère, qui viennent, ou en tout cas, il ne s'use pas trop vite.
Et avoir les yeux des visiteurs conquis, le musée des Arts Forains met en plein dans le mille, comme sur les stands de fléchettes d'antan, une parenthèse enchantée.
Amélie Perrier, le musée des Arts Forains, jusqu'à demain soir, il est accessible seulement pendant les fêtes de fin d'année, lors du Festival du Merveilleux. Le temps pour ce week-end du Nouvel An.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Brouillard et nuages bas font de la résistance cet après-midi le long de la Saône, mais aussi sur le littoral méditerranéen. Une perturbation peu active, voire essentiellement nuageuse, intéresse la Bretagne. Prévoyez quand même quelques gouttes de pluie sur la pointe Finistère. Et puis le soleil sera de la partie dans toutes les autres régions. Les températures maximales évolueront entre 9 et 23 degrés, avec 9 à Dijon, 10 à Lyon, 12 à Strasbourg et Nîmes, comptez 13 à Marseille, 14 à Paris, 15 à Nantes. Prévoyez 17 à Toulouse, 20 à Bordeaux et 23 à Tarbes. Demain matin, vous retrouverez une bonne tartine de grisaille le long de la Saône et du Rhône, autour de la Grande Bleue et à proximité de la Garonne, un ciel couvert avec de faibles pluies de la Bretagne au Pays de Loire, de la Normandie à la région centre et de la région parisienne au Hauts-de-France. Partout ailleurs, votre matinée sera assez bien ensoleillée et puis l'après-midi, notre perturbation va gagner le Poitou-Charentes, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, puis la Lorraine. Prévoyez un ciel de traîne le long des côtes de la Manche, toujours de la grisaille près de la Grande Bleue et du soleil dans les autres régions.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.